This is Infinite TV from Infinite Universes. Look.
J'ai un Gilles de la Tourette inversé. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur.
Someone once told me time is a flat circle.
My log has something to tell you. Do you know it?
I don't believe we've been introduced.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode 90, ça commence à faire pas mal, du podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Séries, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble pour une grosse demi-heure de Fight Club cette semaine pour s'écharper, se bastonner, se frictionner et se déchirer, mais sans quitter notre désormais légendaire Sissi, bonne humeur critique, et notre non moins célèbre joie journalistique.
Next one.
Wait.
That's the last one.
Pierre Langlais de Télérama à la cloche cette semaine et sur le ring, Asmaël Mardi de Brain Damage. Bonjour Asma.
Bonjour.
Jean-Maxime Renaud d'Allociné. Hello Jean-Maxime.
Salut Pierre.
Et un petit nouveau, Ilan Ferry de Lire. Salut Ilan.
Salut Pierre.
Cette semaine, la battle série est de retour avec trois matchs que Paul Amar aurait bien pu arbitrer. Le combat du showbiz 10% contre Entourage, un pugilat entre deux docteurs au tempérament opposé, House et Good Doctor, et une affaire de famille, This Is Us contre Six Feet Under. Allez, comme le disait si bien Axel Rose, get in the ring, motherfuckers.
On sait qu'on te revoit dans un super film.
Ah, bientôt, j'espère.
Ah oui, très bientôt. Il va peut-être avoir le rôle principal dans le nouveau film de Gus Van Sant.
C'est génial, ça.
Hey, Drama, tu vas être dans ce film, toi aussi?
Si un jour il réussit à tourner avec Gus Van Sant, je vais bien me couper les couilles et les bouffer après.
Gabriel, on en est où de Cécile de France pour le Tarantino? Ouais, ça se passe mal.
Je dirais pas que ça se passe mal. Donc ça se passe plus, quoi.
Oh merde.
Hein?
On commence en souplesse avec une baston de poids léger dans le coin gauche, la française 10%, trois saisons au compteur, et un beau succès populaire et critique pour cette comédie dramatique dans les coulisses d'une agence de talent cinématographique. Dans le coin droit, l'américaine Entourage, huit saisons dans la vie de Vince Chase, jeune star hollywoodienne, de séries sur les coulisses du cinéma avec des agents survitaminés et des stars dans leur propre rôle. La première a certainement influencé, la seconde en tout cas peut-être, mais laquelle est la meilleure? On met nos gants et on garde son verdict définitif pour plus tard. Et on commence par se souvenir de son expérience face à ces deux séries. Que dire de ces deux séries? Comment vous les avez... Enfin, en gros, dans quelles circonstances vous les avez vues pour la première fois? Et quels souvenirs vous en avez? Alors, pour 10%, c'est encore frais, mais pour Entourage, ça commence à dater un petit peu.
Entourage, je commence.
Jean-Maxime.
Alors déjà, je n'ai pas vu l'intégralité d'Entourage.
Oh, t'as pas vu le film à la fin?
Je suis avec non. toi, Jean-Maxime, moi non plus.
Pour des raisons, j'ai pas du tout accroché à cette série dès le début. Je lui ai donné sa chance. Je crois que je l'ai découverte sur W9 quand elle est passée en France, sur une grande chaîne.
Donc HBO aux États-Unis.
Tous les personnages m'ont été tout de suite très désagréables. Donc ça, évidemment, c'est compliqué de tenir le coup avec eux aussi longtemps. Combien il y a eu de saisons déjà?
8, je crois.
Ouais, quand même, ça fait beaucoup, saisons. Je trouve, avec ces gens qu'on n'aime pas.
On peut le dire, même si moi je suis plutôt un supporteur d'Entourage, même si ça fait partie de ces séries qui sont quand même bien cassées la gueule, pour parler poliment, et qui en plus ont eu le bon goût de finir sur un film qui était une catastrophe totale. Je sens, Ilan, que tu es d'accord avec moi.
Ah oui, sur le film, oui. Pas forcément d'accord avec Jean-Maxime sur la série, mais sur le film, oui. C'était une manière très catastrophique de conclure cette belle saga. En tout cas, moi je suis un fan d'Entourage, si je puis dire. C'est une série que j'ai découvert sur le tard. Donc là, ça faisait 4 ou 5 saisons que ça avait commencé. J'ai dû m'enfiler les 4-5 premières d'un coup en quelques jours.
Et c'était très bingeable quand même. Hein.
Ah oui, mais
c'était très nerveux.
Il y avait un format court qui était très appréciable et qui rendait l'expérience ultra addictive.
Donc à l'image d'Entourage, il y a les hommes qu'on parlait. Et maintenant, Asma, tu peux pas parler parce que c'est vrai.
C'est
une série à laquelle on reproche.
Moi, j'aime pas
une
les théories de genre. Il y a des séries pour les hommes, il y a des séries pour les femmes. J'aime pas trop ça. Et pourtant, je trouve qu'Entourage, alors que moi, qui adore les séries de mecs, entre guillemets. Je ne dis pas que je suis fan de Tuning et de séries un peu bizarres, mais je ne sais pas, je l'ai trouvé antipathique dès le début. Je n'arrivais pas à créer... j'ai besoin d'avoir un lien en fait, avec les personnages qu'on me propose et avec eux, je n'y arrivais pas. J'ai tenu, je crois, allez, 4-5 épisodes.
Mais est-ce qu'il fallait vraiment un lien alors évidemment, après, on va croiser tout ça avec 10%, c'est le but de la battle, est-ce qu'il fallait vraiment un lien? Parce qu'en fait, c'est plutôt une série qui, à mon sens, tenait plutôt du fantasme que de la sympathie.
C'était du fantasme. On tournait même ça à la satire à certains moments, je ne vais pas te contredire là-dessus. Mais j'ai besoin, moi, justement, d'aimer détester quelqu'un. Si je trouve une personne antipathique dans une série...
Harry Gold, c'est quand même un personnage mythique.
Je dis pas qu'il est pas mythique. Je dis pas qu'il est pas mythique. Je dis qu'il est parfois un peu stéréotypé. Je trouve qu'il est parfois un peu...
Tu le mets dans 10%, tout le monde meurt en 5 minutes avec lui.
Oh, mais ça n'a rien à voir. Là, tu mélanges deux choses qui n'ont rien à voir.
Si, ça a à voir. C'est les mêmes mondes.
Oui, c'est les mêmes mondes, mais tu as un monde à l'américaine et tu as un monde résolument français. Et
on a vu la différence de ton et de voix dans les extraits. C'est assez criant, quand même. Ça va pas.
Oui, ça n'a rien à voir. Notre manière de gérer les stars en France n'a rien à voir avec la manière de gérer les talents et de les traiter comme des enfants ou les assister au quotidien aux États-Unis. Et du coup, enfin, déjà, moi, c'est pas un monde qui me fait rêver, mais pas du tout. Mais alors là, je trouvais que c'était vraiment le club des mecs entre eux et comment ils géraient leurs trucs entre eux. Et franchement, ça m'a gonflé.
Il y a peut-être une vague tentative de faire une forme de Sex and the City masculin.
Ouais, c'est un peu ça, mais je trouve que justement, il n'y avait pas la petite étincelle qui faisait que.
Il n'y avait pas la Carrie ou la Samantha qui nous.
Il n'y avait pas un personnage fédérateur.
Il y avait des personnages simples. Les personnages, excuse-moi, Ilan, mais Turtle était quand même. Y compris physiquement, plus rond que les autres, c'est-à-dire qu'il était plus sympathique, plus mesuré, etc. Ouais. C'était pas tous des bourrins là-dedans.
Ah non, et puis Drama est un personnage ultra attachant. Moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est le loser magnifique de la série, en opposition à Vince, qui est tout réussi, qui est un peu trop clean.
Le vrai Aquaman.
D'ailleurs, on milite pour que ce soit le vrai Aquaman. Mais oui, en opposition à ce personnage, ou même à celui qui est très haut couleur de Harry Gold. Harry Gold, moi, c'est un personnage que j'ai adoré détester. Dans tout son côté, vraiment over the top.
Alors maintenant, 10%, autre regard, tu le disais, Asma. Quand même, avant de parler de 10% et de dire peut-être pourquoi j'ai l'impression qu'autour de cette table, malheureusement, je n'ai pas le droit de vote, sinon on serait un nombre pair et on serait mal barré. on voit très bien comment se dessine le vote de cette première battle. Mais est-ce qu'on peut au moins une seconde les comparer face à face? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que 10% est peut-être une descendante d'entourage? Faudrait demander à Fanny Rero ce qu'elle en pense. J'imagine qu'on lui a déjà demandé, mais je n'ai pas souvenir de sa réponse.
Sûrement, je ne sais pas, mais j'ai vraiment pas l'impression, en regardant 10%, qu'il y a une influence. De toute façon, c'était pas possible, puisqu'on l'a dit, mais les deux milieux, c'est un même métier, mais fait tellement différemment.
Et puis là, on est du côté des agents, alors il y a Harry Gold, mais...
Il y a un côté artisanal dans 10%, petite entreprise familiale presque, qui rend la chose plus chaleureuse d'emblée et les personnages plus attachants d'emblée. Et il y avait un cynisme incroyable dans Entourage, et qui montrait un milieu quand même assez dégueulasse, alors que 10% nous montre parfois des choses qui sont pas terribles non plus, mais le fait avec une bienveillance quand même.
En fait, dans Entourage, moi, ce qui me posait problème, c'est que, enfin voilà, ce milieu-là, Hollywood, c'est un milieu de... comme tout le monde fantasme, parce qu'il n'en fait pas partie, c'est un milieu qui est horrible, où les gens sont méchants, où ils se... Enfin bref, où tout le monde est plus ou moins cynique et noir. Alors que justement, dans 10%, c'est beaucoup plus réaliste. Donc déjà, t'as des personnages vrais et réels, des vrais acteurs qui viennent participer à la série. Et puis surtout, tu as justement cette dimension beaucoup plus réelle de personnages auxquels on peut s'identifier, qui nous ressemblent et qui nous permet justement de croire un peu plus que ça fonctionne comme ça dans ce milieu. Parce que c'est un milieu qu'on ne connaît pas, nous, en tant que spectateurs. Même nous, en tant que critiques, on ne connaît pas ça.
Je vais donner la parole à Ilan sur ce point-là, mais sur le côté Entourage, oui, c'était une vision. Alors peut-être parce que c'était plus franchement une comédie que les 10%, qui est plutôt une comédie dramatique. Problème, différence de rythme aussi, évidemment, parce que les épisodes ne font pas la même durée.
Exactement.
Mais aussi, Entourage, c'était quand même... Ça s'appelle Entourage, pas pour rien. C'est une histoire d'amitié. Donc il y avait beaucoup de tendresse dans cette série-là. Le monde hollywoodien était très dur, mais l'amitié qui était montrée, oui, il y avait des clashs.
J'ai pas tenu assez longtemps pour le voir.
Alors. C'est vrai, mais moi, c'est ce qui faisait que la série tenait d'un point de vue, c'était que c'était aussi l'histoire d'une famille, pour le coup. Plus à la Friends, une famille d'amis.
Pour moi, le cœur de cette série, c'est pas tant d'Entourage, c'est pas tant une série sur Hollywood qu'une série d'amitié, hein, une série de potes, hein, sur une famille qui s'est constituée, qui a vécu dans le même quartier, qui vit les choses chacun à leur manière. Ils ont repris leurs habitudes d'avant, ils les ont téléportées dans le milieu d'Hollywood, et c'est ce mélange, ce clash entre deux environnements très différents qui rend la série appréciable, et cette relation entre les potes.
Alors un petit mot quand même pour finir sur les guests. C'est vrai que En même temps, à pays comparés, peut-être qu'elles se valent l'une l'autre, à vrai dire, parce que c'est vrai qu'Entourage, pour le coup, ça, on ne peut pas leur reprocher, ils mettaient le paquet. Hein. Mm-hmm. Il y avait vraiment le tout Hollywood, voire même certaines stars du sport américain, de la musique, Eminem, enfin voilà, il y a eu quand même du très très lourd dans cette série-là. Mais en France, il y a du très très lourd aussi, pour la France.
Mais dans Entourage, c'était plus du caméo, c'était du « regarder, on a machin dans notre série ».
C'est de la com, c'était beaucoup de
voilà,
com.
Voilà, là où 10% traite chaque guest, pas toujours bien, mais en tout cas, ils le font à fond.
Oui, parce que ça influence profondément le scénario. Oui. C'est vrai que là, y a eu quelques exceptions. Il y a eu quelques apparitions plus durables. Les gens avec qui Vince tournait, par exemple. Mm-hmm. Mais bon, c'est vrai qu'elles ont beaucoup de points communs. Elles sont aussi différentes. Mais du coup, il va bien falloir les départager. Allez, c'est parti. Asma, on t'écoute.
10%. Vive la France.
C'est peut-être pas la meilleure excuse pour aimer 10%, mais OK.
Oui, 10% aussi pour moi. Vive la France, d'accord, mais surtout, il y a tellement peu de bonnes séries françaises qui ne sont pas policières que c'est ça aussi qui nous a plu dans cette série quand elle est arrivée, c'est que c'était un vent de fraîcheur incroyable. Et je voulais juste rajouter par rapport au milieu professionnel que certes, c'est un milieu qui n'est pas le nôtre, mais dans lequel on peut retrouver des choses qui nous parlent, quel que soit le milieu.
C'est une série qui est très universelle, en fait,
voilà.
Au final.
C'est ça sa force.
Ah bah moi je suis Team Entourage, voilà. Team Aquaman, parce que paradoxalement je me sentais plus proche des personnages de Entourage pour tout le côté amitié, petite famille dont on a parlé, que des personnages de 10%, même si c'est une série que j'apprécie. Mon cœur va à Entourage.
Donc c'est, on peut le dire, 10% qui l'emporte contre Entourage. 10% est diffusé sur France 2 et disponible sur Netflix, si je dis pas de bêtises, hein, en tout cas les premières saisons.
Toujours.
Entourage, quant à elle, est en intégrale sur OCS Go, puisque c'est du HBO. Et le film Atroce, qui boucle son histoire, est lui sur Netflix. Voilà, petite incohérence.
Allez savoir pourquoi.
Allez savoir pourquoi, certainement, pour qu'on ne le regarde pas.
Sean has a uniquely gifted mind. He faces challenges most of us could never imagine. Like every one of us, he's made mistakes. But he sees things and has insights that are truly remarkable.
How exactly do these studies work? You give this drug to a bunch of people and they don't get a migraine, you go, voila, my drug works. Excuse me, miss. Do you have cancer? Wow, mango juice prevents cancer.
Le second combat de la soirée est parfait pour se remettre du premier puisqu'il y est question de médecine avec deux séries créées par le même homme, le Canadien David Shore. Dans le coin gauche, un docteur disparu, l'irascible mais irrésistible Gregory House, 8 saisons d'auscultation et de grommellement depuis le New Jersey. Dans le coin droit, un remake d'une série coréenne, pardon, 2 petites saisons et déjà un franc succès. Les aventures du docteur Sean Murphy, Good Doctor, comme on dit sans le The en France, hein, les œufs on n'aime pas ça. Deux drames médicaux diffusés par TF1, mais aux héros bien différents. Alors, est-ce que notre préférence est liée à l'humeur de House et Murphy, a priori opposés? Moi, je préfère House, voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire comme juge impartial.
T'as pas le droit de le dire, tu te tais.
Non, est-ce que c'est une question d'humeur? Alors, parce que c'est vrai que c'est...
Bah,
au
c'est
début,
rigolo.
Ce qui a été facile, c'est de dire, oh, putain, c'est le mec qui a fait House, il fait l'inverse complet. C'est peut-être pas aussi simple.
Non, parce que Good Doctor, en fait, au fil des épisodes, tu vois qu'il y a quand même beaucoup de cynisme et beaucoup de personnages secondaires qui sont pas, en fait, bienveillants. Et sympathique avec ce médecin, enfin avec ce chirurgien autiste qui lui est complètement déconnecté en fait de ce milieu hospitalier. Et c'est vrai que tu retrouves quelques codes que tu pouvais voir dans Dr House, de ces médecins un peu cyniques, détachés des patients, qui s'en fichent complètement, qui pensent qu'à leur carrière et qui cherchent juste les cas les plus complexes et les plus compliqués pour... Par égo, en fait.
Oui, sauf que c'est peut-être pour créer un contraste avec le personnage principal lui-même, Jean-Maxime, Good Doctor, inverse de Gregory House, ou c'est plus compliqué?
Pas inverse, c'est plus compliqué. La différence principale, c'est que House était drôle et le savait, et se jouait des autres, là où Sean Murphy, il est drôle à son insu, à ses dépens parfois. Mais ces deux personnes, en fait, House a quand même aussi beaucoup évolué. Là, on compare une série qui a eu 8 saisons, une qui en a 2.
Eh oui.
On verra comment évolue Good Doctor.
House est quand même tombé dans le de plus en plus sombre. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu des saisons de House qui étaient vraiment le fond du fond du fond du gouffre, quoi.
Effectivement, et le personnage qui était détestable au début ne l'est pas resté tant que ça non plus. Je dis pas qu'il est devenu bienveillant et qu'il était agréable avec les gens, mais enfin...
On a découvert sa complexité au fil des saisons, en fait.
Oui, voilà. Et puis il continue à sauver la vie des gens, quand même, hein, ce qui, au fond, est
oui,
plutôt pas mal.
Il la il l'a sauvé pas pour la sauver, en fait. Il l'a sauvé pour son ego. House. C'était sa personne qui l'intéressait.
House, c'est un personnage ambivalent. Beaucoup plus que le cher Good Doctor. Bon, pour moi, si je vais comparer les deux personnages, je dirais que pour l'un, on est dans la performance, c'est-à-dire comment jouer un médecin autiste dans une série médicale. Et l'autre, on est vraiment sur la personnalité. C'est la personnalité de Dr. House qui fait tout le sel de la série. Dans The Good Doctor, c'est justement la performance de Freddie Highmore qui fait le sel de la série. Donc on est sur deux choses. On est sur une échelle qui va au graduant de manière graduelle chez House et beaucoup moins chez Good Doctor. Quelque chose de très statique, plus chez l'un, moins chez l'autre.
Good Doctor a quand même donné très vite beaucoup plus de place aux personnages secondaires, là où House a longtemps eu du mal à les faire exister.
Bah, pendant plusieurs saisons, hein, tout tenait sur Hugh Laurie, en fait. C'était on parle de performance, il faisait une performance incroyable quand même.
C'est peut-être dû aussi aux différences de genre, parce que si on veut faire des raccourcis, House était un polar, hein, il s'appelle pas House pour rien, c'est une référence à Holmes, à Sherlock Holmes, et en gros, il menait l'enquête contre les maladies. Oui. Là où Good Doctor est
Il est plus dans le registre soap.
Oui, on l'a comparé un peu aux experts.
Il y a une enquête quand même. Hein. Il y a une enquête. Il y a beaucoup d'imagerie un peu tutorielle dans la série. Dans Good Doctor, on voit un peu son processus de réflexion, un peu comme Doctor House. Hein. Il y a ces similitudes qu'on peut trouver dans Good Doctor.
Il y a
aussi le
sujet de l'éthique qui est présente dans les deux séries parce qu'elle tient à cœur à David Shore. Ça, on la retrouve dans les deux cas et traitée dans les deux cas avec sérieux. La différence peut-être avec Good Doctor, c'est qu'en fait, très rapidement, Sean Murphy sait quelle est la maladie, quel est le problème du patient. Et il a plus à se battre pour faire passer son message, que d'avoir à chercher comme
on est plus sur... C'est marrant parce que c'est deux séries sur la communication, en fait, quand même. On a un personnage qui est très cynique et détaché des humains, qui est presque... limite, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est le processus. Et de l'autre côté, on a un personnage qui ne peut pas communiquer et qui essaie quand même de soigner ses patients.
Ouais, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit sur le côté soap de Good Doctor. C'est une des choses qui m'a le plus sauté aux yeux la première fois que j'ai vu. C'est qu'effectivement, contrairement à House, on voit des personnages secondaires qui, pour moi, ont l'air de tous sortir d'un soap. Ils sont tous super beaux, le sourire bright, bien coiffés.
C'était pas vilain dans House, quand même.
Oui, franchement.
Ouais, mais je l'ai trouvé plus, ça faisait plus Melrose Place à l'hôpital. Quoi,
non, géographiquement, on est plus près de Grey's Anatomy que de... Ouais. Que de House, qui est à l'autre bout du pays, hein, aussi. Donc évidemment, ça joue un rôle. Mais quand même, est-ce que je me trompe ? On parlait de la gravité de House. Est-ce que peut-être Good Doctor va descendre de plus en plus bas dans la lumière, ou plutôt dans l'ombre ? Ou est-ce qu'on peut considérer quand même que c'est une série qui est globalement plus grand public ? Alors elle est d'une autre époque, peut-être. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus faire un drame aussi sombre sur une grande chaîne américaine comme House.
C'est-à-dire que les anti-héros, on en a eu tellement pendant 10 ans, 15 ans, qu'il fallait passer à autre chose.
C'est l'anti-anti-héros, voilà. Comme dit très bien l'acteur qui incarne Sean Murphy, Freddie Highmore.
C'est l'anti-anti-héros, et on avait besoin de ça aujourd'hui. Si House revenait aujourd'hui, puisque c'est la mode des reboots, on n'est pas à l'abri que ça arrive, je ne suis pas sûr qu'il serait en phase avec ce que les gens attendent.
Et je pense aussi qu'après les Grey's Anatomy, après les urgences, après Dr. House, on avait besoin quand même de voir un médecin... un peu plus bienveillant, qui faisait de la médecine, même s'il a une histoire un peu...
Bienveillance.
Oui, mais ça, c'est un autre sujet, Pierre.
Ce n'est que le début, Pierre.
C'est un autre sujet. Mais quand on parle de bienveillance, moi, je ne parle pas de la bienveillance comme on l'utilise à tort maintenant, mais d'un médecin, en fait, qui fait ce travail-là, parce qu'il a envie de soigner les gens et de sauver les gens. On comprend avec sa backstory, qui est assez complexe pour un autiste, mais on voit vraiment que ce n'est pas juste un travail pour lui, que c'est un sacerdoce, en fait. Même pour un autiste, c'est un vrai sacerdoce.
Alors, ils ont un autre point commun, nos deux amis, c'est qu'ils sont joués par des Anglais, l'un comme l'autre, alors de deux générations différentes, là aussi. Faisons quand même le match Freddie Highmore contre Hugh Laurie. C'est dur, mais
Non, tu peux pas.
Ça dépend si on reste sur leurs prestations dans les séries en question. On les a vus faire d'autres choses autour. Et moi, je trouve que Freddie Highmore avec Bette Motel a montré autre chose de son talent.
Auguste Rush, quand il avait 6 ans, il était extraordinaire.
Là où Hugh Laurie joue les méchants dans tous les films dans lesquels il joue.
Il est quasiment toujours dans le même registre.
Ouais, il vient de la comédie.
Oui,
dans VIP notamment, on le voit.
Mais on ne l'a pas beaucoup vu en comédie. On l'a vu dans un épisode de Friends, justement, dans un registre un peu comique. Mais alors que Freddie
Highmore. Vous êtes en train de me casser Hugh Laurie, là.
Mais on ne le casse pas, on l'adore. On te dit que c'est deux choses différentes. On ne peut pas choisir. Moi, je ne peux pas choisir. Tu me demandes de choisir entre mon père et ma mère.
C'est dommage parce que vous allez devoir choisir. Asma.
Bah, ça va être Dr House. Parce que c'est beaucoup plus cynique, c'est plus complexe, le personnage a été exploré.
Mais tu viens de me dire du mal de Hugh Laurie, je ne comprends plus rien.
Mais j'ai pas dit que je disais du mal de Hugh Laurie, je te dis qu'ils ont deux registres de travail différents et de performances différentes. Bon. Je peux pas choisir entre les deux acteurs, mais par contre je peux choisir entre les deux séries. Et j'ai beau aimer The Good Doctor pour les valeurs qu'il propose, je préfère vraiment pour le fond, la noirceur, Dr House.
Jean-Maxime, je te parie 100 balles que tu vas dire Good Doctor.
Écoute, j'aimerais beaucoup te contredire. J'aimerais beaucoup, mais je ne vais pas le faire.
Bah, tu me dois 100 balles. Voilà.
Bah ouais, ok, ça marche.
C'est comme pourquoi, ça que tu te fais de l'argent, toi
rapidement
Good Doctor, parce qu'elle est dans son époque, parce que Freddie Highmore, je trouve que sa prestation est vraiment impressionnante et j'aurais aimé qu'il ait des prix d'ailleurs aux Emmy et compagnie. Et parce que le côté soap, moi j'adore ça, donc forcément cet aspect-là me séduit.
Ilan.
Ah bah moi, ça va être House, parce que pour le personnage que je trouve beaucoup plus intéressant que The Good Doctor, beaucoup plus difficile à aimer, donc voilà, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fourni, riche que Good Doctor, et puis le côté enquête dans le milieu médical.
Donc c'est Dr House qui l'emporte. Good Doctor, c'est sur TF1, la saison 2 devra arriver prochainement, on n'a pas de date, mais en tout cas elle est déjà diffusée aux États-Unis, hein, je dis pas de bêtises,
oui, oui.
La saison 2 de Good Doctor. Elle doit être du coup sur MyTF1, ça sur
MyTF1 VOD, et je pense que la saison 2 arrivera vite sur TF1.
Et donc Dr House est disponible en DVD, j'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé ailleurs qu'en DVD, pour ceux qui n'auraient pas suivi cette série, qui a eu des moments de faiblesse, mais qui globalement quand même était une des toutes meilleures séries de network des années 2000, on peut le dire avec The Good Wife, c'est un peu de grandes séries de network des années 2000.
Why do people have to die?
To make life important. None of us know how long we've got. Which is why we have to make each day matter.
I know you guys didn't have a perfect marriage. You just lost a child and you both just wanted me. Right away, just like that.
It's complicated.
It's something people say when they don't want to tell the truth.
C'est l'heure du combat des poids lourds, le dernier de cette émission, peut-être le plus déséquilibré, mais aussi le plus compliqué, entre deux séries aux thématiques communes, mais diffusées à des époques et sur des chaînes bien différentes. À ma gauche, donc, un classique parmi les classiques, le chef-d'œuvre d'Alan Ball, Six Feet Under, 5 saisons bouleversantes et une fin cultissime, The Série sur le deuil et la famille, vue sur HBO, bien sûr. À ma droite, sa descendante de grandes chaînes, on peut dire, This Is Us, 3 saisons de Larmichette et de Twist dignes de Lost, pour une famille qui nous est déjà familière, les Fisher contre les Pearson. C'est parti, chers amis. Et commençons par clarifier une de mes déclarations. This Is Us est-elle une héritière ou l'héritière même de Six Feet Under?
Non, moi je ne suis pas dans ce truc-là. C'est deux séries familiales.
Sur le deuil aussi.
Oui, c'est vrai. C'est pas le sujet de This Is Us, mais c'en est un des sujets.
C'est la tension centrale au début.
Oui,
au début. Moi maintenant, mais.
Non.
Mais pour moi. Pour moi, c'est plutôt l'héritière décisive de Parenthood, de Génération de Pub, qui date d'il y a un sacré bout de temps maintenant, de Brothers and Sisters aussi éventuellement. Six Feet Under a proposé autre chose à l'époque.
C'est pas seulement dû au diffuseur, c'est pas juste une différence de ton et de... Est-ce que finalement, si les scénaristes... Si Alan Ball avait dû faire sa série sur une grande chaîne, il aurait pas fait un truc qui aurait ressemblé à
Six Feet Under est beaucoup plus complexe que This Is Us. Ouais. Dans sa structure, dans son écriture, dans sa manière de... Dans son esthétique, dans sa réalisation. Je trouve qu'on peut pas... Les comparer sur le deuil.
Si, il va falloir.
Non, mais laisse-moi finir. Les comparer sur le deuil, c'est légitime, mais les comparer sur le fond et sur la structure de ces familles, c'est complètement différent. La famille Pearson, c'est une famille cathartique. La famille Six Feet Under, c'est une famille qui nous fascine, à laquelle on ne va pas avoir une catharsis tout de suite.
Je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec toi là-dessus.
Non, il y a une catharsis.
Déjà, on l'est autour
de
cette
table. Tu l'as à la fin, tu l'as dans le final. Le final, il est dévastateur pour tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui n'a pas pleuré devant le final de Six Feet Under. La catharsis, elle arrive dans Six Feet Under, mais ce n'est pas la première chose. On parle beaucoup de deuil au début. On parle beaucoup de la mort.
Le deuil, c'est une forme de catharsis. Enfin, le deuil, c'est par définition même
l'émotion est exacerbée dans This Is Us. C'est la première chose qui va te prendre. This Is Us appuie sur des boutons que tout le monde...
Comme je le sous-entendais, voilà, est-ce que This Is Us est plus un mélodrame, comme on dit? Donc, on va au tire-larme pour le pire ou le meilleur. Hein. D'ailleurs, souvent le meilleur, mais un peu plus souvent le pire en saison 3, même si elle n'est pas si ratée que ça. Est-ce que du coup, c'est ça la différence, c'est que Six Feet Under ne cherchait pas, je mets des guillemets, ça se voit pas en fait de la radio, à nous émouvoir comme ça,
c'est
à nous
ça.
Faire pleurer.
Non, elles n'avaient pas le même but, la même envie. This Is Us, elle s'adresse quand même à un beaucoup plus grand public.
il faut qu'on puisse se retrouver dans les personnages, ils sont assez nombreux. Là où Six Feet Under avait des personnages très dysfonctionnels auxquels on peut quand même pas facilement s'identifier, on peut retrouver dans un combat, dans un truc, à un moment donné, quelque chose qui nous ressemble, mais pas au global, parce qu'ils ont vraiment eu des vies particulièrement difficiles et des problèmes psychologiques forts.
Là où Decisos annonce d'entrée de jeu, par sous-entendu titre un peu comme Friends à une époque, que c'est aussi nous. C'est
oui,
eux, mais
exactement.
C'est aussi nous.
Et puis, c'est des gens quand même qui ont eu un père parfait. Enfin, pas que, mais il y a quand même ça, un truc un peu une famille parfaite. Mmh. On découvre qu'elle n'est pas si parfaite, certes. Six Feet Under, dès le départ, on sait qu'ils sont tous très amochés.
Ilan.
Oui, This Is Us ne ménage pas ses effets, les amène même de manière beaucoup plus pompière que Six Feet Under.
Avec ses structures narratives, le suspense, etc.
Oui, au bout d'un moment, moi, ça m'a même paru, à un moment donné, artificiel, beaucoup plus artificiel et beaucoup moins subtil qu'un Six Feet Under qui, lui, gère des sujets beaucoup plus universels, beaucoup plus profonds que This Is Us. Six Feet Under est beaucoup moins accessible que This Is Us, mais tant mieux, c'est plus exigeant, moins accessible, et c'est pas le même but, c'est pas la même approche.
Et Six Feet Under avait une structure moins feuilletonnante, paradoxalement, oui, oui. Parce qu'il y avait à chaque épisode aussi un nouveau décès, etc. Là où This Is Us, c'est un pur feuilleton.
Six Feet Under, quand même, il n'y avait pas un plaisir de visionnage. C'est plaisant parce que c'est bon, que c'est bien écrit. Mais enfin, il fallait se plonger dans cet univers. C'était dur. On en ressortait un peu lessivé. This Is Us, on regarde ça aussi avec plaisir. On a envie
avec légèreté.
De... Voilà, avec une légèreté qui est agréable.
En fait, This Is Us, contrairement à Six Feet Under, elle a une structure mécanique où elle appuie sur des boutons. Elle appuie à chaque fois sur des boutons qui vont parler à une certaine tranche, on va dire, de spectateurs ou à une certaine cible de spectateurs. Alors que Six Feet Under, c'est plus une réflexion. Sur la mort, sur l'impact de la mort, sur ce qu'est la vie, ce qu'est la famille, ce que sont ces liens en fait familiaux qu'on partage entre frères et sœurs, entre père et mère. Alors que This Is Us, c'est plus dans la célébration positive de la vie et dans les liens, enfin dans cette espèce de réunion familiale qui va nous soutenir contre vents et marées. Alors que Six Feet Under est plus sur une réflexion de qu'est-ce que c'est que la famille.
C'est plus une série existentialiste par rapport à This Is Us, qui est une chronique intimiste. This Is Us, alors même si on va se contredire, on a dit tout à l'heure que This Is Us parle aussi de nous, mais This Is Us parle quand même surtout des Pearson, de cette famille, de son histoire, etc., qui reflète celle de l'Amérique. C'est pas pour rien qu'on reparle du Vietnam, qu'on fait le Super Bowl et tout le tralala. Là où peut-être Six Feet Under, c'est ce que tu sous-entendais, Asma, on va peut-être moins s'identifier aux personnages, mais en revanche, à leurs angoisses existentielles, beaucoup plus que... Donc au final, si je suis ton raisonnement, Six Feet Under serait une série qui avait beaucoup plus de raisons de durer. Oui. Parce qu'elle avait besoin de creuser, là où tout le monde dit que This Is Us, si les 6 saisons qui ont été sous-entendues se font vraiment, ça va peut-être un petit peu tirer à la ligne.
Bah, quand on essore toujours les mêmes mécaniques, je continue à regarder This Is Us, mais je pleure toujours pour les mêmes raisons, qui me sont personnelles, que je ne vais pas sortir et étaler ici, mais parce qu'elle appuie toujours sur ces mêmes boutons qui vont me faire mal à moi. Mmh. Comme ça va appuyer sur d'autres boutons qui vont faire mal à Jean-Maxime ou à Ilan.
Je pense que ce n'est pas seulement à toi, sinon il n'y aurait pas autant de téléspectateurs qui
la regardent.
Non,
mais ce que je te dis, c'est que c'est universel, mais c'est aussi, personnel. Tu vois ce que je veux dire ?
Alors
que l'autre est plus une analyse beaucoup plus globale, intelligente et recherchée du deuil et de la famille que This Is Us.
Alors, elles ont quand même un point commun, alors comme beaucoup de séries qui ont marqué leur temps, c'est qu'elles ont servi de révélateur pour des comédiens talentueux. Alors évidemment, côté Six Feet Under, c'est surtout Michael C. Hall qui s'est fait reconnaître grâce à cette série-là. Peter Krause dans une moindre mesure. Alors, ce qui est amusant, c'est que tu as sous-entendu que Parenthood était plutôt l'ancêtre de This Is Us et c'est une série où Peter Krause était.
Où il était aussi très bien.
Ouais, voilà. Donc... Et puis, alors, côté This Is Us, c'est Sterling K. Brown qui a vraiment explosé. Les autres étaient déjà un peu connus, mais plutôt regardés avec condescendance, pour dire les choses simplement. C'est des acteurs qu'on ne considérait pas vraiment comme de bons comédiens ou comédiennes, et qui ont prouvé qu'ils étaient bons, en fait.
Ouais,
donc, est-ce qu'au moins on peut parler de ça, pour finir cette battle, de la capacité qu'ont eu ces séries à sublimer des comédiens, je crois, on peut dire ce mot-là.
C'est vrai. Ils ont pris aussi pour Six Feet Under des gens qui avaient fait des choses beaucoup au théâtre. C'est le cas de Michael C. Hall, mais pas que. Le seul problème, finalement, c'est qu'à part Michael C. Hall, tous ont un peu disparu. Bon, Frances Conroy, on la voit beaucoup, mais pas forcément dans des rôles toujours très intéressants. Là où les comédiens de This Is Us sont forcément tout de suite plus populaires et tout, mais je ne crois pas qu'ils auront une carrière incroyable au-delà des personnages qu'ils jouent actuellement.
Moi, je vais être un peu plus cynique sur Sterling K. Brown, qui est un excellent acteur. Hein. Je remets pas en question du tout son talent. Je trouve que Sterling K. Brown est arrivé à la période des Oscars So White, à la période où on essaie de donner plus de place à la diversité et à célébrer justement les talents issus de la diversité. Et je pense que c'est ce qu'il a beaucoup mis en avant aussi par rapport à This Is Us.
Ouais, il a fait aussi simultanément le O.J. Simpson, qui était assez
qui était
extraordinaire.
Très bon, mais qui prouve qu'il a un grand talent. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on le célèbre et qu'il a reçu ses récompenses. Mais je pense aussi qu'il y a une question de contexte. De période qui permet justement de valoriser un talent plus qu'un autre. Dans This Is Us, il y a beaucoup de talent. L'actrice qui joue Kate, je la trouve extraordinaire.
Chrissy Metz, ouais.
Voilà, elle est extraordinaire dans son jeu, dans la manière de gérer son corps, de gérer justement quelque chose qui peut être très cathartique pour elle, parce
J'ai
qu'elle parle un peu
avec
d'elle.
Son personnage, je trouve que c'est pas le.
Il est un peu stéréotypé. Ouais. Je suis complètement
il sort
d'accord.
Jamais vraiment des problèmes de.
Voilà,
ça,
on parle toujours de grossophobie, ouais, voilà, de poids, de machin, alors que. Voilà, là, même cette saison avec ça, ce qui se passe, ça tourne toujours autour de la même chose.
Alors quoi qu'on en dise, c'est quand même ce point de révélateur de ces séries-là. Quoi qu'on pense du travail de Sterling K. Brown, qui par ailleurs a été en tout cas reconnu par la critique et ses pairs. Voilà.
Il est très bon, mais il est mieux servi que les autres peut-être.
Voilà,
il est
peut-être, c'est ce que je pense.
Il est bien servi, sauf que dans la saison 3, ils ont pris des risques, hein, parce qu'ils auraient pu le rendre profondément antipathique. Hein.
Oui, enfin son intrigue n'est pas bonne, mais il arrive à s'en sortir toujours.
Il s'en sort, en tout cas à l'heure où on enregistre ce podcast, parce que il va se passer quelques épisodes, donc si ça se trouve, il devient tueur en série. Mais, ça serait un twist.
Ce serait génial.
Bim, ça réglerait le problème. En tout cas, il a réussi à prouver que c'était vraiment un mec bien. En même temps, c'est tous des gens bien dans cette série.
Mais oui, c'est vrai. Voilà. Mais où est Lorraine Ambrose ? J'ai envie de dire quand même juste ça, quoi. Lorraine Ambrose, elle était géniale.
Elle a fait 2-3 séries pas
des
terribles.
Trucs terribles. Elle a un grand talent. J'espère qu'à un moment donné, elle va enfin trouver un beau projet.
Ouais. Donc, pour aller dans le sens d'Asma, il va falloir qu'il y ait quelque chose pour les roues, hein, parce que c'est peut-être pour ça qu'elle n'y arrive pas.
Et Michael Seale est un peu roux. Hein.
Ouais, c'est vrai, il a
Peter
Krause un peu aussi. Hein. C'était une série avec des roues quand même, Six Feet Under. Bon, ça va mal tourner cette émission. Allez, et c'est la cloche. Et du coup, c'est l'heure du vote. Asma, c'est parti.
J'ai envie de dire This Is Us, mais je vais dire Six Feet Under parce qu'elle est beaucoup plus complexe.
J'ai envie de te dire non, mais je vais te dire oui en fait.
C'est ça.
T'as envie de dire This Is Us parce qu'en fait, on n'a pas envie
non,
de la taper.
Non, This Is Us, voilà. Je l'adore parce que j'ai cette relation cathartique comme tous les spectateurs. On aime avoir ce petit côté larmichette, lacrymale quand on regarde une série où on a nos émotions exacerbées, etc. Par contre, moi, ce que j'aime regarder dans une série, enfin, ce que j'aime avec une série, c'est la réflexion. Et j'ai beaucoup réfléchi avec Six Feet Under, ce que je ne fais pas avec This Is Us.
Jean-Maxime.
Six Feet Under, pour moi, elle aura, je pense, marqué beaucoup plus les séries de manière générale, le monde des séries, son évolution, que ne marquera This Is Us, qu'on aura, je pense, très vite oublié une fois qu'elle sera terminée. Six Feet Under, on y pense encore.
Ilan.
Moi aussi, ça va être Six Feet Under, parce que Six Feet Under, c'est sortez votre bouteille, et This Is Us, c'est sortez vos mouchoirs. Donc, tant qu'à faire, autant sortir la bouteille.
Et donc, évidemment, énorme surprise, c'est Six Feet Under qui l'emporte dans cette dernière battle. Six Feet Under, ça peut se revoir sur OCS Go, puisque c'est du HBO. Quant à This Is Us, c'est Canal+ qui la diffuse. On est en plus 24, pas tout à fait plus 24 d'ailleurs, c'est le dimanche soir, si je ne dis pas de bêtises.
Quelques
jours après la diffusion américaine pour cette saison 3. Et on referme là-dessus ce 90e épisode de Un épisode et j'arrête, battle des séries qui a été sanglante mais fair play avec piétinage de l'adversaire dans les règles du jeu. Merci à Asmaël Mardi de Brain Damage, Jean-Maxime Renaud d'Allociné et Ilan Ferry de Lire. Merci aussi à Solène Moulin qui était à la technique. La semaine prochaine, pas d'émission, on marque une semaine de pause, festival oblige, et on revient vite pour se rapprocher de la 100e émission, ça on va y arriver. D'ici là, likez nos pages et nos profils Facebook et Twitter, ça nous fera plaisir. Salut à toutes, salut à tous, et à la semaine prochaine.
Next one. Whoa, wait.
What?
That's the last one.